Nous revenons sur notre série sur l'Apocalypse. J'espère que vous trouvez intérêt dans cette série de prédications. On sait que ce n'est pas simple pour une congrégation. Ce n'est pas simple non plus pour des prédicateurs de vous présenter cela comme cela, vraiment ponctuellement. Dans mon cas, c'est aux 3 semaines. Dans le cas de Christian qui fait les actes, mon frère Mathieu dans Pierre, on est tous un peu dans la même, comment on disait en anglais, la même bandwagon. On peut pas donner ça expositoirement, là, comme on le fait, ou comme on aimerait le faire, à chaque semaine. Mais nous ne sommes pas des seeker sensitive, pour une autre expression anglaise. On espère quand même que vous pouvez composer avec cela et demeurer un peu dans le flot des séries qu'on veut enseigner. Vous savez, lorsque j'aurai fini l'Apocalypse, si le Seigneur permet que je le fasse, on tire quand même sur la fin, j'aurai environ 65 à 66 messages de prêcher sur toute cette série. Alors, ça fait donc un bon moment que nous y cheminons et nous allons le faire encore aujourd'hui. Par contre, plusieurs personnes ou certaines personnes qui sont parmi nous n'étaient pas là au début. C'est une série que j'ai commencée au début du mois d'octobre 2022. Ça fait quand même un moment, Ça fait quand même au-dessus de 4 ans. Alors, on peut perdre un peu le fil, on peut perdre un peu le sens, on peut perdre un peu le plan de l'Épître elle-même. Alors, vous me permettrez, pour nous remettre au parfum, de nous rappeler la forme du livre. Et c'est vraiment pas compliqué. Il s'agit uniquement de penser au chiffre 7. Entre l'introduction et la conclusion, nous retrouvons en effet 7 visions qui nous sont présentées, et c'est le même message qui se répète à 7 reprises, 7 scènes parallèles qui traitent du même sujet, mais avec des objectifs et avec des buts différents. Et plus on va vers la fin, plus les péricopes nous parlent de l'extrême fin, si vous me passez l'expression. La vision 1, donc, les chapitres 1 à 3, nous parle de l'Église en Asie mineure. Et en réalité, ce sont 7 églises qui typifient toutes les églises de toute époque. La vision 2, nous avons les 7 sceaux. Et la section s'ouvre sur une vision du trône de Dieu. Et chaque sceau croît en intensité et en clarté. Au 7e sceau, nous sommes au jour même du jugement. Alors, ça couvre les chapitres 4 à 7, incluant l'ouverture du chapitre 8. La vision 3, nous avons les 7. C'est le chiffre 7. Nous avons les 7 trompettes. Tout comme pour les sceaux, il y a un interlude là entre le 6e et la 7e trompette, au cours duquel d'autres visions nous sont données, et ça redécoupe les chapitres 8 à 11. La 4e vision, c'est la guerre contre Satan. Et cette section-là inaugure une autre série de 7 volets. On est toujours dans le chiffre 7, le nombre de Dieu. Et c'est peut-être la clé de tout le livre. Elle décrit la guerre réelle entre Dieu et Satan dans les chapitres 12 à 14. Alors, pour plusieurs personnes, l'Apocalypse, c'est un livre tellement mystifiant qu'on n'ose même pas, même Calvin n'a pas prêché dessus, c'est quand même pas petit, pourtant c'est un livre qui nous promet une bénédiction, et c'est une révélation, c'est pas une cacheterie, c'est une révélation. La vision numéro 5, nous avons les 7 coupes, on est encore dans le 7, vous voyez, nous avons les 7 coupes, l'intensité augmente, alors que la vision décrit les coupes de la colère divine répandues sur la terre, chapitre 15 à 16. La vision numéro 6, c'est la chute de Babylone, une section dans laquelle le Christ remporte systématiquement la victoire sur chacun de ses ennemis, chapitre 17 au chapitre 19. Et finalement, la vision numéro 7, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. On en a parlé dans Ésaïe il n'y a pas si longtemps. Tantôt, lors de la lecture de Fadi, versets chapitre 21 à 22, et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, l'approche que nous avons adoptée pour la proclamation de ces versets-là, je dis bien la proclamation parce que ce n'est pas une didascalie, pas un enseignement, c'est une parénèse, c'est une prédication, c'est une exhortation. Alors l'approche que j'ai adoptée pour cette série, c'est celle que nous appelons l'idéalisme. On ne s'embarquera pas à définir toutes les autres écoles, on le fera si Dieu nous en permet le temps et l'occasion dans un autre moment. L'idéalisme qui veut que chacune de ces visions-là couvre toute la période entre les deux venues du Seigneur Jésus-Christ. On a toute l'histoire ici. Chaque section, chacune de ces sept sections-là couvre toute la période entre les deux venues du Seigneur Jésus-Christ. C'est le modèle de base que nous retrouvons tout au long du Nouveau Testament. Il y a une terminologie qui est extrêmement importante si vous voulez faire de l'eschatologie, c'est-à-dire la doctrine des fins dernières. Si vous voulez faire de l'eschatologie, c'est extrêmement important de comprendre qu'il y a seulement deux âges qui nous sont rapportés dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament aussi par ailleurs. Il y a l'âge présent qu'on appelle cet âge mauvais, et il y a l'âge à venir. Et ces deux âges-là, tous ensemble, redécoupent toute l'histoire de l'humanité, de cette ancienne terre sur laquelle nous vivons, que nous piétinons actuellement. Cet âge est l'âge à venir. Recoupe donc tout le temps, incluant le temps sans fin et l'état éternel. Et l'âge présent, c'est important de le dire à mon avis, ce que nous appelons cet âge, sera toujours un âge mauvais. L'âge présent sera toujours un âge mauvais. Alors cessons de faire montre d'un optimisme déconnecté, ça va toujours être un âge mauvais. Notre optimisme vient du fait que nous sommes des pèlerins qui sommes de passage et qui nous dirigeons vers un autre âge, qui lui sera un âge béni. Galates chapitre 1, verset 4 nous dit en effet, « Jésus qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent âge mauvais. » Et le mot « âge » toujours le même, c'est toujours le mot « aion ». Et c'est un âge mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Et je me limite à ce verset-là, mais en fait, j'en avais 18 à vous présenter, mais au fait d'économie de la chronologie, on va se contenter de un. Il nous est pas rapporté que cet âge dans lequel nous vivons va s'améliorer, va devenir un peu moins mauvais, un peu meilleur. Et on peut avoir des moments de relaxation, on peut avoir des pauses, mais l'âge ne deviendra jamais meilleur devant notre Dieu créateur, le Dieu infiniment saint. Nulle part nous est-il dit que le monde allait finalement se soumettre à la loi de Dieu. Aucun gouvernement ne réussira cet exploit-là, parce que ce n'est pas une question de loi, c'est une question de cœur. Lorsqu'on parle de la christianisation du monde, j'aimerais la définir ainsi, on ne fait que dire que dans le cours de cet âge mauvais, Dieu est venu se racheter un peuple par le don d'un cœur nouveau. Il leur donne un cœur nouveau et ça devient son peuple. Nous nous dirigeons vers l'âge à venir où la gloire de l'Éternel va remplir toute la terre. Que ta gloire remplisse tout l'univers. On vient de chanter. Alléluia. Ouvrons la parole de Dieu au chapitre 21 de l'Apocalypse. Nous lirons les versets 1 à 4 aujourd'hui. C'est bon de revoir la maman aussi en passant, hein? Mais quand nos enfants, on s'efface progressivement, on devient les parents d'eux. Donc, Apocalypse, chapitre 21, les versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avait disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Alléluia. Car les premières choses ont disparu. Verset 1 à 4 affirme que les choses anciennes sont passées, alors que les versets 5 à 8, qu'on verra si le Seigneur le permet ultérieurement, nous parlent que Dieu fait toutes choses nouvelles. Mes trois points pour aujourd'hui, d'abord, une création renouvelée. Nouveau ciel ou nouveau ciel et nouvelle terre. Deuxièmement, une relation restaurée, nouvelle Jérusalem. Et troisièmement, une consolation parfaite. Donc, une création renouvelée. L'apôtre Jean reçoit ici une vision pour le moins bouleversante. On peut avoir des visions troublantes. Des visions inattendues, mais ici c'est carrément bouleversant. Écoutez, ce n'est pas petit, là. Hein, c'est nouvelle terre, nouveau ciel. Il y a quelque chose d'immense et de grand qui est tout inclusif, qui à un bon moment donné est en train de prendre le bord pour être remplacé par quelque chose d'autre, donc. Alors, il reçoit cette vision bouleversante. Le monde a disparu. Et voilà que Dieu inaugure une création entièrement renouvelée. Verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Le fameux verset qu'on retrouve dans Romains chapitre 8, verset 21, qui nous parle des soupirs de la création, parce que la création attend la délivrance de la gloire des enfants de Dieu, ben, elle voit son accomplissement ici, vous voyez. L'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est plein d'accomplissements de toutes les promesses de notre Dieu qui tient parole. Quand Dieu a créé ce monde, avant la chute, hein, c'était un monde parfait. C'est difficile pour nous de s'imaginer un peu à quoi pouvait ressembler le paradis terrestre. Il devait être très beau parce que dans un premier temps, il n'y avait pas de centre d'achat. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, à quoi pouvait ressembler le paradis terrestre de l'époque? On sait que les choses étaient très, très différentes de maintenant. C'est vraiment difficile de s'imaginer ce qu'était ce monde-là. Et on peut encore, jusqu'à un certain point, visualiser sa grandeur. On peut encore, jusqu'à un certain point, concevoir ce qu'il était par les beautés qui y sont restées. On regarde la beauté, les merveilles et la gloire de la création lorsqu'on peut encore s'arrêter pour les regarder et on est encore en proie à s'émerveiller. Moi, quand je prends mon café chaque matin, dans ma vitre avant, j'ai des branches de vigne et il y a des petits oiseaux qui viennent. Et à chaque matin, il m'émerveille. Il y a un écureuil qui passe à l'occasion aussi. Mais c'est magnifique quand tu as une demi-heure ou 20 minutes en prenant ton café pour regarder ces choses-là. Et ce ne sont que quelques détails parmi tellement d'autres, hein? Les humains étaient différents. Adam et Ève étaient différents de ce que nous sommes. Il n'était pas encore pollué par la chute, vous voyez. Il n'y avait pas encore la dépravation en eux, là. La nature était différente. Les animaux étaient différents. On peut se faire une idée à partir des beautés, comme je disais tout à l'heure, des beautés naturelles qui nous entourent. Les fleurs, les oiseaux qui chantent, hein? Les oiseaux qui font de la poésie même. Les petits ruisseaux qui gazouillent, hein? Les clairs de lune qui nous invitent à la romance, et on pourra encore continuer très très longtemps de ce à quoi pouvait ressembler cette belle et merveilleuse création, ce grand jardin qui était la demeure que Dieu avait préparée pour l'homme. Et l'histoire de notre vie, c'est toujours de vouloir revenir à ce jardin-là. Et on n'y arrivera jamais. C'est quelque chose de passé. Donc, l'idée que nous avons dans le texte d'ici, que Jean ferait sortir, c'est l'idée d'un retour, d'une restitution, d'un rétablissement de cette création première. Ce qui ne signifie pas un retour en Éden, au jardin d'Éden. Cette action finale de Dieu va infiniment au-delà du jardin d'Éden. C'est-à-dire que le jardin qui était perdu au début est remplacé à la fin, à partir du texte que nous avons devant nous, par la cité céleste, par la Nouvelle Jérusalem. On n'y perd certainement pas au change. Une bonne façon d'approcher cette réalité-là, vous l'avez peut-être déjà fait, c'est de comparer un peu Genèse chapitre 1 et 2 avec l'Apocalypse chapitre 21 et verset 22. Genèse 1:1, Dieu créa. Apocalypse 21:5, Dieu renouvelle. Vous pourrez le lire par vous-même, vous verrez le contraste. Au début, Dieu crée la lumière. Lorsqu'on arrive vers la fin de l'Apocalypse, c'est Dieu qui éclaire. Pas besoin de luminaire, c'est Dieu qui éclaire. Dans le jardin, il y avait un serpent. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a rien de souillé. L'homme, en raison de la présence du péché, s'est éloigné de Dieu. Ici, il vit en présentiel. Il vit directement, il habite avec Dieu. Et on l'a sorti au plus vite du jardin pour ne pas qu'il mange de l'arbre de la vie. Et dans l'Apocalypse, il s'en donne à cœur joie à manger de l'arbre de la vie. Voyez-vous? Un renouvellement complet, un renouvellement total. Je pense que c'est encourageant. Dans nos moments un petit peu chaotiques de nos vies, dans nos moments de remise en question, de savoir que c'est la destination vers laquelle on s'en va. Voilà donc notre attente, notre espérance, notre assurance selon la promesse. Et Dieu l'a ajouté au verset 5, « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Alors, on n'est pas devant un discours politique ici. Hein? Lorsque je travaillais à CKVL, c'est quoi? J'ai travaillé avec Jean Corombeil, l'ancien ministre du Travail du Québec. Un monsieur quand même très, très gentil. Il y avait toujours quelque chose à nous dire chaque jour. Il disait souvent, « Lorsque vous allez voter, ne votez jamais pour ceux qui vous font des promesses, au cas où ils aient le mauvais désir de les tenir. Ils ne seront pas capables de les tenir. » Et c'est vrai en grande partie. Il y en a quelques-uns, on le voit actuellement, là, qui tiennent leurs promesses, mais en général, ce n'est pas le cas. Mais si c'est Dieu qui parle, c'est le discours du Dieu Tout-Puissant, le Dieu de vérité, qui atteste que ces choses sont certaines et véritables. Ce texte-là que nous venons de lire ne parle pas seulement d'une amélioration du monde actuel, mais du renouvellement. C'est un gros mot, hein? Le mot renouvellement radical même. Le mal, la souffrance, l'injustice, la mort, tout cela appartient au siècle présent, à l'ancien monde, au siècle mauvais, présent, et marqué par la fragilité et la douleur. Mais notre foi repose sur cette promesse que Dieu prépare quelque chose de totalement nouveau. Il faut bien comprendre ici la signification de ce renouvellement. Comme quelqu'un a dit si bien, Dieu ne fait pas de nouvelles choses, mais il fait toutes choses nouvelles. Il y a une grosse nuance entre les deux. Matthieu 19, 28 nous dit, « Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. » Le mot palingenesia, qui veut dire littéralement « régénération », suggère une analogie entre la nouvelle naissance spirituelle du croyant qui vient au Christ et la transformation des cieux et de la terre au retour de Jésus. C'est le même type de renouvellement qui va s'opérer en quelque sorte. Rappelons-nous que le mal, pour citer Henri Blocher, cet écharpe dans la chair de notre rationalité, c'est quand même bien dit, hein? Et pour citer Herman Bovin, que mon frère Mathieu apprécie grandement, hein, le mal, c'est la déformation du bien. C'est pour ça qu'on est en constant besoin de réforme, de reprendre la forme, parce que le mal déforme. Hein. C'est la déformation du bien, et c'est ce que le mal a fait. Ce qui est intéressant de noter dans le texte ici, c'est que l'auteur, sous l'inspiration de l'esprit, on sait que c'est une inspiration, c'est théopneustique, hein, pour pas un grand mot théologique, on sait que c'est une inspiration, un mot qui vient de, ça vient vraiment de l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Non, là, là, m'excuse. Ah oui, prends soin d'ajouter que la mer ne sera plus. Pourquoi dit-il cela? Nouveau ciel, nouvelle terre, et la mer ne sera plus. Parce qu'on l'a vu dans notre dernière prédication, vous vous souvenez, la mer, c'est le symbolisme du mal et du chaos. Le mal ne sera plus. Plus de douleur, plus de deuil, plus de crainte, plus de tout ce que nous vivons actuellement. Auparavant, quand on parlait du ciel, si vous étiez comme moi, là, on imaginait quelque chose quelque part, principalement en haut, même quand la Terre tourne, hein, c'est encore en haut pour nous, là, hein, sans trop savoir ce qui s'y passerait. Et on a entendu plusieurs prédicateurs dire, si vous savez, vous voulez savoir c'est quoi le ciel, laissez aller votre imagination. Non, le ciel, ce n'est pas selon notre imagination, c'est selon sa révélation. Comme disait quelqu'un, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Hein? La Bible nous dit maintenant ce qu'il en est. Une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Comme maintenant, une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Comme maintenant, mais entièrement renouvelés. Où nous allons, comme je le disais précédemment, vivre en présentiel avec Dieu. Vivre en présence de Dieu, vivre et servir. Et ça m'amène à mon deuxième point, une relation restaurée. Verset 3. J'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le skéné, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. C'est un verset qui traite de la véritable beauté du ciel. Et c'est pas d'abord une question esthétique que la beauté du ciel, mais c'est la présence de Dieu. Dans toute la Bible, Dieu cherche à habiter avec son peuple. Il nous a fait à son image. Et il veut vraiment être en communion avec nous. Rappelez-vous, dans le jardin, il venait se promener, il venait faire un brin de causette avec Adam et Ève régulièrement. Dieu aime sa créature. Il veut vivre avec sa créature. Ce n'est pas parce qu'il s'ennuie à l'intérieur de la Trinité, bien au contraire. Mais son amour débordant a fait en sorte qu'il fasse une création avec laquelle il veut habiter, et au sein de laquelle il veut habiter. Il a toujours cherché à habiter parmi son peuple, dans le jardin d'Éden, dans le tabernacle, rappelons-nous, hein, dans le coffre en question, avec les deux séraphins de chaque côté qui veillaient sur le coffre, où était une espèce de présence de l'Éternel, dans le temple, et plus encore, c'est un beau son joyeux. Amen. Et plus encore, en Jésus. Quel est le nom de Jésus? C'est Jésus, mais je comprends là. Mais on l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Oui. C'est la culmination de tout le plan divin, hein? Depuis Genèse 3,15. Non, je vais tout refaire, je vais tout renouveler et je vais être avec mon peuple. Ici, la promesse atteint son accomplissement. Dieu habitera pleinement avec l'humanité. Ce qui fait le ciel, ce n'est pas l'or des rues qui nous ont décrites. Ce n'est pas les portes de diamants. Je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça. Moi, j'en ai rien à cirer des portes de diamants et de l'or des rues. Non, c'est la communion intime que nous aurons avec notre Dieu. Et ça nous en dit long sur notre vie chrétienne, ça. Les gens... Est-ce que ça fonctionne? Je vais tourner en envers. Ça va aller. C'est comme moi, c'est un peu en envers, là, voilà. Oui, ça nous en dit long sur notre vie chrétienne. Combien de fois, lorsque nous présentons l'Évangile, les gens croient qu'ils deviendront exempts d'épreuves et de chagrin. Dieu va tout arranger ça. C'est une réalité, mais il faut nuancer un tantinet. Hein? C'est pas comme ça que ça se passe. Bien sûr que ça va venir. Bien sûr que nous serons dans la gloire. Mais d'ores et déjà, comme prémisse, nous avons le privilège de goûter au ciel parce que nous avons le privilège d'être déjà en communion avec Dieu. Et ce n'est qu'un tout petit aperçu. Est-ce qu'on peut vivre de meilleurs moments que dans nos moments de grande proximité avec le Seigneur? Hein? Et on sort de là, on a les yeux levés un peu vitreux, on lit vite pratiquement. On a un bon moment avec le Seigneur. C'est nos meilleurs moments. Si on n'a pas de bons moments avec le Seigneur, il y a peut-être raison de se questionner, de lire davantage la parole et de prier plus intensément. Parce que le ciel, c'est la présence de Dieu. Quand on entre, on le dit souvent, dernièrement, quand on entre le matin dans notre méditation ensemble, on vit toujours dans la présence de Dieu, bien sûr, mais on entre d'une manière particulière, hein, en sa présence là. Alors, Ésaïe 53:5 nous dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc, nous avons déjà les prémices qui nous servent de garantie et qui nous servent de préparation. Nous sommes en communion avec le Dieu de vérité, dont la parole et les promesses se veulent d'une certitude absolue. Nous sommes en communion avec le Dieu de vie qui, en Christ Jésus, nous a donné la vie. 1 Jean chapitre 5, verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Je trouve ça intéressant qu'on ait pris le verbe « avoir ». On aurait pu écrire « Celui qui croit au Fils a la vie », ce serait une réalité aussi, mais c'est très spécifique. « Avoir », être dedans. Ça nous rappelle, et là on partira pas sur je ne sais trop quoi, là, mais notre union avec Christ est extrêmement importante. Rappelons-nous que Éphésiens nous en donne un très très bel enseignement. Hein? Et ne reste tout à être en Christ. Nous avons été élus en Christ. Nous avons été bénis en Christ. Nous avons été élus en Christ. Nous sommes, et c'est parce que nous sommes en Christ que nous avons tout cela. Hors de Christ, nous n'avons rien. Pourquoi est-ce que nous prions, nous disons toujours, « Et je te demande toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus. » C'est parce que nous sommes en lui, et c'est en lui que nous recevons tous les bénéfices de notre Dieu, oui. Nous sommes donc en communion avec le Dieu de justice, comme on le voit dans les versets 5 à 8, où il amène les siens dans la gloire et réserve les autres pour les temps de feu. Dans l'Ancien Testament, la bénédiction de Dieu se mesurait d'une certaine manière, métaphorique ou autre, mais en tout cas, se mesurait d'une manière matérielle, hein, physique, par la grandeur des troupeaux et par les biens terrestres. Dans la Nouvelle Alliance, c'est en fonction de la nouvelle cité, de la nouvelle Jérusalem, qui nous est présentée ici. Et il nous est présenté ici comme une ville sainte, comme un lieu immaculé. La parole ne nous présente pas l'Église comme une ville de grande affluence. Les foules, le nom, ça impressionne le peuple, ça impressionne le monde. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, mais c'est pas comme ça que la parole nous présente l'Église, hein? Non pas comme une ville de grande influence, non pas comme une ville de culture progressive, non plus que comme une cité de divertissement. C'est-tu le fun? Avez-vous aimé? Non. C'est pas comme ça que la parole nous présente l'Église. Elle nous la présente comme une ville sainte, dont nous sommes citoyens. Bien-aimés, qu'en est-il de notre citoyenneté céleste? Qu'en est-il de notre appartenance à une ville sainte? 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 30 et 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il n'y a pas de place pour le statu quo dans la vie chrétienne. On peut pas dire que je suis arrivé, je me stationne et j'attends que Jésus revienne. Hein? C'est vraiment pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de place pour le statu quo dans notre vie chrétienne. Je m'excuse. Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7 nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Péripatéo, hein? Marcher veut dire, avant, le mot est donné en français, péripatétienne, les prostituées qui font le tour du carré, là, hein? ils le font en marchant. Alors, comme vous l'avez reçu, péripatéo, marchez avec lui, allez de l'avant avec lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermé par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et, si vous avez une seule petite phrase à retenir aujourd'hui, retenez celle-là. Abondez en action de grâce. Hein, Carlos? On abonde en action de grâce. Abondez! C'est abondant, ça. Abondez en action de grâce. C'est une triste réalité que beaucoup de chrétiens vivent dans un ressentiment amer. En raison de ce qu'ils perçoivent comme des choses que Dieu leur aurait refusées. Lorsqu'ils se sont convertis pour la première fois, pourtant, leur cœur se réjouissait tant et tellement du pardon de leur péché, vous voyez. Mais au fil des années, les difficultés dans les relations, les échecs au travail, les frustrations de la vie, les frictions dans l'Église ont aigri leur cœur. Bien-aimés, en dépit des difficultés dans les relations, des échecs au travail, des frustrations de la vie et des frictions dans l'Église qui aigrissent le cœur, abondons en action de grâce, nous dit la parole. Lorsqu'un examen lucide révèle que c'est là où on est rendu, un peu asséché, un peu amer. Un croyant rempli d'amertume devrait prier pour avoir un cœur reconnaissant. Et c'est l'exhortation que nous lance Colossiens, chapitre 2, verset 7, hein, nous invite aussi à revenir en arrière et à nous assurer que nous sommes véritablement enracinés en Christ Jésus, afin que notre vie soit l'expression de sa grâce. Est-ce que ça peut être autre chose que ça? Nous sommes devenus une même plante avec lui. Alors Dieu pourra nous édifier selon le modèle de sa parole, centré sur la personne et l'œuvre de Christ. Donc, nous avons été créés en Jésus-Christ, nous avons été faits saints de position. On est tous conscients qu'on n'est pas tout à fait rendu encore de condition, hein? Mais nous avons été faits saints de position. C'est-à-dire que notre position devant Dieu, nous sommes parfaitement saints. Dans notre condition, encore, bien des choses à faire, mais en Christ Jésus, nous avons cette parfaite sainteté-là. Et nous sommes appelés, et c'est l'œuvre de l'Esprit, de nous rendre en condition ce que nous sommes en position. Et c'est le propos de l'apôtre Pierre en 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 7. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue. à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle l'amour. C'est ça, marcher. C'est ça la marche. On avance dans cela, on grandit dans cela, on avance vers le royaume de cette façon-là. Et c'est rien de moins que le processus de préparation, comme nous l'indique la fin du verset 2, qui nous dit « préparer comme une épouse qui est séparée pour son époux ». Quelle image de proximité que celle du mariage, hein? C'est l'institution par excellence d'intimité et de communion. Et c'est cette proximité qui caractérisera notre relation avec le Seigneur Jésus lui-même. Nous avons souvent de fois une conception un peu triturée du ciel. On en parle souvent en termes d'émotions positives, en termes de bien-être, etc. Et bien sûr que le ciel sera cela, mais ce n'est qu'une infime partie de la réalité. Le ciel sera le ciel en fonction de la présence immédiate de notre Dieu. Vous savez ce que disait Augustin? Non, parce que je ne vous l'ai pas dit encore, mais vous l'avez peut-être lu. Augustin disait, plus on est près de Dieu, plus on est. Moins on est près de Dieu, moins on est. Ça a l'air banal, mais c'est puissant, sérieux comme affirmation, vous savez. On ne peut pas retomber dans le non-être. Mais nous sommes l'image de Dieu. Alors, plus on est près de Dieu, plus on devient, plus on est. Et c'est ça, croître et grandir dans notre vie chrétienne et cheminer dans la sainteté. Devenir de plus en plus semblable au Christ. C'est ça que la parole nous dit, que nous sommes transformés de gloire en gloire en l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon troisième point, une consolation parfaite. Est-ce que le téléphone peut suivre? Oui. Il fait toute la traduction, oui. Oui. Une consolation parfaite, donc. Nous faisons partie d'un monde, nous faisons partie, comme on le disait au début, de ce siècle mauvais. Un monde qui souffre sous la tyrannie des ennemis du Christ, de sorte que nous vivons dans une terre spirituellement aride. Une terre faite de corruption. Une terre faite de tentation. Et que dire des conséquences de cette réalité-là? Quelle consolation de lire au verset 1 à 2, comme on le mentionnait préalablement, que la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui séparait pour son époux. Le renouvellement de la vie de l'âge à venir, il est complet, dans l'absence des misères générées par le règne maudit du péché et de la mort. L'apôtre décrit au verset 4, il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Soit dit en passant, permettez-moi de digresser un peu. Je lisais aux nouvelles cette semaine, c'était des dames qui conversaient, qui parlaient, que c'est bon de pleurer, même si on n'a pas de raison. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Ah bon, d'accord. Alors, je vais être malheureuse au ciel, parce qu'il n'y aura plus de larmes, hein? On va essuyer tout cela. OK, alors, mais ça nous en dit long, alors. Hein? Ben, on est ce qu'on est, quoi. Amen. Oui. Il essuiera toute l'encre de leurs yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur, car les premières choses ont disparu. Le psaume 116, verset 9, nous dit qu'on entend souvent citer, dans les services funèbres d'ailleurs, il va comme suit, « Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. » Nous habitons une terre d'agonisants, une terre de mourants. La cité des vivants, c'est celle que Dieu fera descendre du ciel et à laquelle nous appartenons, et il n'y aura ni larmes, ni chagrin, ni tragédie, ni cœur brisé. Le prophète Ésaïe, d'ailleurs, en parlait déjà, et je présume avec émotion, au chapitre 35 de son livre, verset 10, « Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » C'est notre perspective. Notre avenir n'est pas dans l'effondrement, mais dans la restauration. Notre espérance n'est pas l'évasion, mais la transformation. Ce passage serait donc l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament et la finalisation de l'histoire du monde. Et cette histoire-là n'est pas une tragédie qui culmine dans la mort et dans la honte, mais c'est un drame qui se clôt dans un renouveau cosmique. Et les noces de l'agneau, qui plus est. Le nouvel exode est consommé, le retour d'exil est complété, et Dieu habite, Dieu tabernacle. Hein, c'est le verbe skenoo. Le verbe littéralement veut dire Dieu plante sa tente. Dieu monte sa tente avec nous. Dieu habite parmi son peuple. Et Ézéchiel 37, 26, 27. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Et le beau discours de l'alliance, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Bien-aimés, la Bible nous enseigne que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes en conséquence, cohéritiers du Christ pour la gloire éternelle. Nous sommes le peuple parmi lequel Dieu va habiter. Mais venez-vous, Dieu, lorsqu'on le connaît, ne serait-ce qu'à partir de l'Écriture, ce grand Dieu qui dépasse toute définition, toute imagination possible, veut habiter avec nous, avec son peuple. Comment cela se peut-il? Parce que le Christ Jésus est venu. Il est venu pour conquérir le péché et qu'il reviendra pour terminer son œuvre de salut. Et il n'y a aucun si, il n'y a pas de conditionnel là-dedans, ça va se produire. C'est la parole de l'Éternel. Une cité sainte, une épouse préparée, une éternité sans larmes et un sauveur divin, aimant, qui continue de tendre les bras pour offrir tout cela gratuitement à celui et à celle qui veut bien investir sa foi en lui. Amen.